Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag avec aujourd'hui, bien comme tous les vendredis, nos idées de lecture, enfin les nôtres, ceux plutôt de vos libraires indépendants du Lot, avec Sandrine de la librairie Caligramme. Mais d'abord, sans trop tarder, si on partait du côté de bétail pour un atelier bien-être animal qui va se dérouler le 19 février. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Rendez-vous à bétail le samedi 19 février pour un atelier bien-être animal. Et ce bien-être animal, c'est vous qui allez le fabriquer. Et en plus, on imagine que c'est éco-responsable. En tout cas, on va en savoir plus avec l'organisatrice et animatrice canin qui est Audrey Hersigny. Bonjour Audrey Hersigny.
Bonjour.
Vous êtes aussi donc pet-sitter. Ça veut dire que vous gardez les chiens à domicile ?
Voilà, alors pet sitter, c'est l'ensemble des animaux de compagnie dont je m'occupe. Donc en fait, je vais chez les propriétaires réaliser des visites et des promenades pour les chiens particulièrement. Mais ça concerne toutes les espèces, aussi bien les chats, les chevaux, les ânes, il y a même des chèvres et des moutons de compagnie, enfin voilà, c'est assez global.
Et les serpents aussi, non, j'imagine, parce que du coup, ça fait partie des animaux de compagnie aussi.
Oui, mais c'est des espèces sauvages en fait. Les reptiles, c'est des espèces sauvages, donc on ne peut pas s'en occuper avec un certificat de capacité pour les animaux domestiques. Il faut un autre certificat.
D'accord. Alors du coup, vous organisez cet atelier bien-être animal à la ferme de Louisette. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet endroit d'abord ?
Alors la ferme de Louisette, c'est pas seulement une ferme de producteurs, donc eux ils produisent des châtaignes, mais du coup les propriétaires ont aussi d'autres compétences et ils ont monté une association donc qui s'appelle la ferme de Louisette et qui organise des ateliers et des événements très variés. Ça peut être sur le bien-être féminin, le loisir tout simplement, organiser des soirées festives. Ils font aussi de la vente de produits à la ferme. Donc, on a dans cette équipe, il y a une cuisinière qui fait de la cuisine végétale. Donc, c'est toujours super bon. On peut très bien manger. Et après, il y a des recettes à base de châtaignes, des pâtes, la galette, là, récemment. Enfin, voilà. D'accord. C'est un lieu très chouette et j'ai eu envie de faire mon prochain atelier là-bas.
Donc, en plus, j'imagine qu'on est en pleine campagne au milieu des animaux. Donc, ça peut être que mieux.
Oui, c'est un beau cadre en tout cas.
Alors, vous avez décidé de faire un atelier créatif récup. C'est de la fabrication de jeux d'occupation pour chiens et chats. Pourquoi cette idée-là ?
Alors, mes deux premiers ateliers, c'était des conférences sur le comportement canin en premier et ensuite sur le comportement félin. Et du coup, en fait, je me rends compte que la plupart des personnes n'ont pas beaucoup de connaissances sur les besoins fondamentaux de leurs animaux de compagnie. Et l'occupation mentale, ça en fait partie. Et du coup, là, sur le troisième atelier, c'est en lien avec les deux premiers. Je vais donner des moyens concrets aux personnes pour occuper leurs animaux de compagnie. Donc, c'est des jeux principalement des gamelles ludiques, on peut dire, où on va cacher de la nourriture dedans. Et ça va permettre aux animaux de se dépenser mentalement. C'est aussi c'est autant important que la dépense physique, en fait.
Pourquoi ?
Et ça va même les fatiguer plus, la dépense mentale.
Pourquoi c'est plus important ?
C'est pas plus important, c'est autant important.
Autant important,
mais...
ouais.
Voilà, parce que en fait, l'animal, c'est pas une plante verte. Il n'a pas seulement besoin de manger des croquettes dans sa gamelle et d'aller courir. En fait, lui, à la base, dans sa génétique, la recherche de nourriture, c'est une activité très complète. Ça lui prend plusieurs heures par jour. Et donc, nous, en tant qu'humains, on a le devoir, en fait, de se rapprocher au plus près de ses besoins. Et puisqu'on ne peut pas se permettre de le laisser chasser dans la nature, on peut trouver des alternatives à la maison.
D'accord. Alors, ces accessoires, vous les fabriquez avec quoi ? Parce que j'ai envie de vous dire déjà la première chose, ouais, pourquoi je m'embêterais à faire ces accessoires alors qu'on les trouve dans le commerce ?
Eh bien, déjà, parce que ça coûte cher, les jouets pour chiens. Et il y a tous les gens qui ont des animaux n'ont pas forcément les moyens d'acheter des jouets parce qu'on a aussi des animaux qui peuvent être super destructeurs, comme les chiens, par exemple. Donc, le jouet, il va faire 5 minutes et puis ça nous aura coûté une fortune. Mmh. Donc là, l'idée, c'est donner les moyens à tout le monde, peu importe le budget, de répondre aux besoins de son animal.
D'accord. Alors, par exemple, qu'est-ce que l'on prend pour fabriquer quelle sorte de jouet? Là, vous parliez tout à l'heure d'une gamelle qui est très à la mode d'ailleurs, hein, où effectivement, pour éviter que le chat ou le chien se gloutonne comme certains, ce sont des gamelles qui leur obligent à prendre le temps pour manger. Alors, comment on peut fabriquer ça? Parce que moi, quand je vois cet appareil-là dans le commerce, je me dis, mais c'est d'une complexité.
Ben, c'est pas si complexe. Ça peut l'être au début, mais après, le chien, au fur et à mesure, il va apprendre à s'en servir. Et l'idée, c'est de commencer avec des choses simples. Là, par exemple, on va construire un pipolino. Donc, dans le commerce, en fait, ça se représente sous forme de tube. Il y a des trous dedans. Et le chien, ou le chat d'ailleurs, il va devoir pousser le tube pour faire tomber les croquettes par les petits trous.
Ouais.
Voilà, donc ça, on peut le faire avec une bouteille en plastique. Bon, forcément, ça dure moins longtemps, mais ça peut être déjà une première approche pour voir si son animal, il apprécie ou pas de se servir de ça.
Cela dit, c'est pas dit que non plus ça dure tout aussi longtemps quand on l'achète effectivement dans le commerce. Si le chien, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous en connaissez des chiens comme ça qui sont très fougueux dans leur jeu.
Ah bah, les miens particulièrement, les jouets faits maison, ça va durer... un peu, mais si je veux que ça dure plus longtemps, là par contre, il va falloir que je choisisse des matériaux pas forcément récup.
Donc au final, si je comprends bien, il y a dans les rayons des tas de choses. Quand on les achète, on se fait plus plaisir à nous plutôt qu'au chien, parce que finalement, il se contente de n'importe quoi. C'est un peu comme le chat, d'ailleurs, on lui achète un beau panier, il va préférer un carton vide.
Eh bien, on peut tout essayer, mais c'est vrai qu'en fait, faire plaisir à son chien ou son chat, c'est à la portée de tout le monde et avec des matériaux qu'on récupère. On n'est pas obligé d'acheter des choses dans le commerce.
Donc cet atelier, est-ce que les gens doivent venir avec des matériaux qu'ils ont récupérés aussi?
Oui, alors du coup, j'ai fait un événement sur Facebook qui est accessible à partir de ma page professionnelle Pâte & Compagnie 46. Et dans cet événement, il y a la liste des matériaux, donc une liste pour les chiens et une liste pour les chats. Et après, les gens doivent s'inscrire par téléphone. Donc quand ils s'inscrivent, du coup, je leur demande leur mail et je leur envoie, si besoin, la liste par mail. Après, c'est pas un impératif parce que on est deux animatrices et on va aussi mettre des choses de côté, donc pour les gens qui n'en ont pas, du coup. Et on va aussi inciter les participants à ramener plus de choses pour pallier aux personnes qui n'ont pas de matériel.
Donc après cet atelier, ça veut dire qu'on doit être capable de mettre de côté certaines choses parce qu'on sait qu'on va fabriquer des jouets. Alors j'imagine, on a parlé de bouteilles en plastique, j'imagine que l'on parle aussi de rouleaux de papier toilette ou d'essuie-tout.
Voilà, c'est ça. Tous les petits contenants en plastique, des cartons... là, moi, je vais fabriquer aussi un jouet qui s'appelle un tug. Donc, ça, c'est pour les chiens et c'est avec du tissu. Donc, il faut pouvoir découper des grandes bandes de tissu, plutôt épais, du coup, pour que ça soit bien résistant. Donc, c'est plein de choses. Et après, j'espère que ça va susciter la créativité chez les gens et qu'ils vont trouver des variantes à faire chez eux.
Donc là, ils vont apprendre à faire combien de jeux, du coup, pour cet après-midi-là?
Alors, moi, pour les chiens, je vais en proposer 3, mais sachant qu'il y a une multitude de variantes pour les 3. Et pour les chats, je pense que Sarah va en proposer 2, il me semble. Mais il y en a un qui sera plutôt complexe et assez élaboré.
Eh bien, ça se passe le samedi 19 février, vous réservez, c'est à 14h30 à la ferme de Louisotte à Bétail. Vous vous inscrivez et pour vous inscrire, vous allez sur la page Facebook, j'ai perdu le nom, Pâte & Compagnie 46.
Pâte & Compagnie 46.
Et là, vous avez un événement, il y a le numéro de téléphone, on peut réserver.
Voilà.
Ça. Eh bien voilà, et on n'a pas demandé le prix?
Alors, c'est une participation à prix libre, du coup, ça va dans le sens de... on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour faire plaisir à son animal.
Ouais.
Donc, c'est un prix libre. Il faut savoir que moi, je vais payer une location pour la salle. Et après, mon intervenante, elle est bénévole, mais j'aimerais bien la défrayer quand même pour son déplacement. Et moi, du coup, ma rémunération, elle va dépendre de la participation des gens. Donc, c'est chacun fait selon ses moyens, mais j'espère quand même qu'on va récolter une petite enveloppe.
D'accord. Et il y a combien de places?
Alors, il y a 10 places pour les chats et 10 places pour les chiens.
C'est des deux ateliers différents, en fait. Ils ne seront pas au même endroit.
Ils sont dans la même salle, mais on fera deux tables différentes pour imaginer.
D'accord, selon, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Audrey Hersigny. Rendez-vous le samedi 19 février à 14h30 à la ferme de Louisa Tabétaille. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Et comme chaque week-end, on vous donne des idées de lecture avec nos libraires de chez Calligramme et les libraires indépendants du Lot. Bonjour Sandrine.
Bonjour Yannick.
Alors, deux livres aujourd'hui. Alors, bon, un livre enfant parce que c'est ta spécialité quand
et
même.
Oui, hein,
c'est
ma passion.
Il est ta grande passion. Tu dévores des tas de livres d'enfants, mais tu aimes bien aussi des bons gros romans.
Exactement.
Et d'aventure, j'imagine, quand je vois le titre Connemara de Nicolas Mathieu. Alors, c'est marrant parce que cette femme qui est en couverture, on a l'impression que c'est tiré d'un film. On dirait que c'est Brigitte Bardot ou t'as pas... Non ?
Oui, c'est vrai.
Hein, au final,
moi,
quand
je trouvais Mathilde Seigné plus.
Ah, mais... Mathilde Seigné ? Ah oui, d'accord.
On peut les deux.
Oui, mais on n'a pas les mêmes références. Hein. T'es plus jeune que moi aussi, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre de Connemara ? C'est un livre d'aventure ou pas ?
Ce n'est pas un livre d'aventure,
bon,
non.
Déjà,
c'est un livre avec une dimension plus sociologique.
Ah.
La couverture est très bien trouvée puisqu'on va suivre une jeune femme, Hélène, qui a la quarantaine et qui a une vie bien installée et qui est en plein questionnement sur sa vie. Ce que cette couverture décrit, je trouve très bien.
Alors quand je vois l'épaisseur du bouquin, elle doit s'en poser des questions. Hein.
Eh oui, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est à la crise de la quarantaine ?
Je ne sais pas, je ne suis pas passée par là.
Eh oui, bon. Et moi, je n'y suis pas encore. En tout cas, c'est cette jeune femme donc, qui est, elle a une vie très installée. Elle est avec son mari, ils ont une maison d'architecte, ils ont deux enfants. Elle a un métier qui lui permet de vivre très bien. Elle a ce qu'on dit réussi dans la vie et elle vient d'une banlieue pavillonnaire. Et elle va en fait recroiser la route de Christophe, qui est un jeune homme qu'elle a connu quand elle était adolescente. Et lui, au contraire, il est resté dans le village et il a mené une vie qu'on pourrait dire plus tranquille. Mmh. Et on suit ces deux personnages, une relation adultérine et tous les questionnements qu'ils vont avoir. Et le roman est très intéressant dans sa construction pour plusieurs raisons. La première, c'est que les questionnements se font à l'âge de la quarantaine.
Ouais.
Les questionnements, je pense que beaucoup... ont pu avoir ou vont avoir donc une identification forte au personnage. Et en même temps, on revient sur le passé pour comprendre pourquoi il se pose toutes ces questions et il est nécessaire de mieux comprendre l'adolescence telle qu'elle s'est passée pour savoir pourquoi ils en sont là. Et donc, il y a des flashbacks réguliers. C'est très pertinent pour l'histoire. Ça rythme aussi beaucoup le récit. Et l'autre élément qui rythme beaucoup le récit, c'est que Christophe, lui, c'est un, il joue au hockey sur glace dans une équipe à Épinal, qui, je crois, en vrai, est une très bonne équipe de hockey sur glace. Je crois qu'ils sont en D1.
Bah, je te le confirme.
Tu me le confirmes.
Venant d'Épinal aussi, je te le confirme.
Voilà. Donc, moi, je viens de Brest, qui a aussi une excellente équipe
mais
de
moins
hockey
bonne
sur glace.
Mais
moins bonne qu'Épinal. Toujours est-il que le récit est rythmé par les matchs de hockey de Christophe qui joue quand il était adolescent. Et là, on lui offre la dernière opportunité de retourner sur la glace. Il a 40 ans, il sait que c'est probablement ses dernières années. Et il est en train de jouer et les scènes sont très bien décrites. On y est vraiment. Qu'on s'intéresse ou pas au hockey sur glace, ça a le mérite de rythmer le roman avec ce match où on se demande ce qui va se passer. Où on se met dans la, où on est dans la tête de Christophe aussi. Donc tout ça donne vie à un roman que j'ai trouvé très riche au niveau des thèmes qui sont abordés et au niveau du rythme aussi. C'est important aussi de mettre en avant ce roman, je trouve, parce que Nicolas Mathieu a eu le prix Goncourt en 2018 et là, c'est son nouveau roman. Forcément, il est attendu au tournant. C'est difficile pour un auteur qui a eu un prix justement de ne pas trembler quand il s'agit d'écrire le nouveau.
D'autant plus qu'il n'a pas sorti de livre depuis 2018.
Non,
ah
non,
oui, effectivement,
non.
Oui. Ah, et la pression est dure là.
Ouais. Ouais. Et justement, je trouve que vraiment, je vous le conseille. Moi, j'ai lu Leurs enfants après eux, que j'ai beaucoup aimé. Vous allez retrouver cet esprit sociologique très fort qu'on trouve chez Nicolas Mathieu. Le livre a d'ailleurs été encensé par Jérôme Fourquet qui écrit des ouvrages sociologiques. Et ce n'est pas pour rien. Donc vraiment, lisez-le. On y trouve une multitude de sujets abordés avec beaucoup de justesse. Et il est vraiment très bon. Ne le comparez pas au précédent puisqu'il est très, il n'est pas très différent. Vous allez retrouver son style et il
c'est
est
la forme.
tout aussi bon.
C'est quoi si il s'intéresse à une personne du couple en particulier ou les deux?
Dans le roman?
Ouais.
Alors il a mis l'accent sur la femme, c'est là où justement le, c'est encore plus fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait discuté ensemble d'un roman qui s'appelle Florida d'Olivier Bourdeau, où je vous avais parlé du fait que je trouvais ça incroyable de se mettre autant dans la peau d'un personnage féminin, ce qui je trouve n'est pas facile quand on est un homme. Et inversement, et là justement il a mis l'accent sur la femme et elle se pose des questions qu'on a pu se poser nous adolescentes avec une justesse incroyable, moi je me suis vraiment identifiée
vraiment. Une question comme ça, pourquoi Épinal? Parce que...
Et il est originaire de l'Est, Nicolas Mathieu.
Ah.
Je crois même qu'il est originaire d'Épinal, je sais qu'il est né dans les Vosges. Je ne sais pas s'il n'est pas d'Épinal, mais oui, ses romans se passent toujours dans l'Est, puisque c'est sa terre natale.
Ah, d'accord, ok. Mm. Il a quel âge, ce garçon?
Il est né en 78.
Ok, on a peut-être dû se croiser, alors, vu que j'habitais quelques paires d'années. D'accord, et vous, je m'enseignais sur lui, ça se trouve, il était dans mon lycée.
Eh ben, dans ces cas-là, je vous le conseille d'autant plus, Yannick, parce que on est justement de temps en temps à Nancy, moi j'ai fait mes études à Nancy, donc on apprécie de retrouver des lieux qu'on a connus. Alors ça,
c'est,
voilà,
c'est étonnant parce que généralement quand on veut faire rêver des gens, on ne pense pas spécialement à Épinal, faut dire ce qui est, même si c'est une jolie ville, faut dire ce qui est, mais c'est pas l'endroit, on pense plus à des endroits au bord de la mer ou vraiment des bonnes stations de montagne, etc. Là dans le fin fond des Vosges, c'est pas vraiment, c'est marrant, mais pourquoi pas.
Mais il donne, en fait, le récit, il lui donne une... Et c'est vraiment la dimension sociologique qui va primer, en fait. Et puis, bon, quand les scènes se passent tantôt, certaines, c'est plus rare à Nancy, et le reste du temps, effectivement, c'est plutôt dans des endroits qui ne nous font pas spécialement rêver. Mais ce n'est pas le but du roman. Le but du roman, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur des personnages. C'est vraiment très introspectif, en fait.
Et puis, si ça peut donner envie aux gens d'aller visiter Épinal, eh ben, tant mieux, parce que c'est quand même, ça reste une jolie ville. Puis les Vosges, c'est sympa.
Ça leur donne
aussi
surtout envie d'aller voir les matchs de hockey sur
glace.
Ah,
là, je vous confirme, je vous confirme. J'ai des souvenirs, moi, quand j'étais ado, les matchs de hockey, très sympa.
Et des bastons.
Et des bastons. chose qu'on n'a pas ici dans le Lot, puisque des patinoires, par cette chaleur, c'est pas évident, quoi, quand il fait
beau. Et oui, nous sommes ici en pleine terre de rugby.
Exact. Et en plus, on est dans le rugby. C'est vrai, j'avais oublié. Connemara de Nicolas Mathieu, à quelles éditions?
Aux éditions Actes Sud.
Actes Sud. Alors maintenant, on va regresser un petit peu, on va replonger. Oh, j'adore cette image dans la forêt sombre et profonde d'Elphine Bournet. Une forêt qui pourrait être vosgienne parce que justement, il y a des sapins et on voit des yeux à travers, des yeux de loup. Ah, c'est peut-être
qu'est-ce
toute
l'histoire. Qu'est-ce qui fait peur aux enfants?
C'est les loups.
Ouais. Donc dans la forêt sombre et profonde de Delphine Bournet, c'est aux éditions École des Loisirs. Et c'est mon gros coup de cœur, j'avais pas encore eu l'occasion de vous le présenter, c'est mon gros coup de cœur depuis 2 mois, j'arrête pas. Donc non seulement je le conseille en librairie, mais surtout, vous savez, les enfants, le soir, ils vous réclament toujours la même histoire, et puis vous vous dites, bon là c'est bon, on va changer un peu. Et en fait, en ce moment, c'est moi qui réclame à ma fille cette histoire-là, parce que je voudrais la raconter tous les soirs, parce que j'aime tellement la raconter.
Ça continue, c'est ta fille qui va te la raconter, hein, au bout d'un moment. Donc elle va la connaître par cœur.
C'est ça, elle va finir par la connaître par cœur. Bon. De temps en temps, quand même, elle me dit non. Donc, quand elle me dit non, bah, je suis quand même obligée d'accepter. Donc, on change les histoires. Mais celle-là, elle est vraiment... Donc, je vous la conseille déjà parce que c'est un grand plaisir à lire. Ce qui, en tant que parent, vous le savez, il y a des histoires où vos enfants adorent que vous leur racontiez tous les soirs et vous vous ennuyez au bout d'un moment. Celle-là, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est l'histoire, en fait, de loups. Donc, on voit...
Loups au pluriel.
Et voilà, ils sont plusieurs. Donc des yeux s'ouvrent dans cette forêt sombre et profonde. On a l'impression que les loups vont nous faire terriblement peur.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à chaque fois, donc, ce sont, dans la page de gauche, il y a une grosse phrase qui raconte l'histoire. La page de droite, c'est l'image. Et j'ai l'impression qu'on reste dans le même décor, mais ce décor évolue. Puisque d'un côté, pour la première image, on voyait que les yeux. Là, on voit les yeux plus l'écrou, puis les yeux sont un peu plus méchants cette fois.
C'est ça. En fait, le but, c'est de vous faire croire qu'on va vous faire peur et qu'il y a, voilà, dans cette forêt sombre, profonde, des crocs qui s'entrechoquent et des hurlements qui déchirent la nuit. Donc là, on se dit, ouh là là, ces loups vont nous faire peur. Je ne prendrai pas ça pour mon enfant parce qu'il fait des cauchemars et qu'il a peur des loups. Non, pas du tout, je vous arrête. Au contraire, ces loups, ils font un bazar fou. Et en fait, ils sont en train d'appeler qui? Leur maman. Et donc la mère arrive et dit, non mais ça va pas à la tête, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Vous dérangez tout le monde dans la forêt sombre et profonde. Et c'est là que vous allez rire et vos enfants aussi. Et en fait, les enfants loups ont plein de choses à demander à leur maman. Vous savez, un enfant qu'on couche le soir, il a toujours un truc qui manque. Le bisou, le verre d'eau, etc. Ben là, les loups, c'est pareil. En fait, ils n'ont pas eu le bisou, ils n'ont pas eu d'histoire. Et en fait, si, ils ont tout eu. Sauf la chanson. Et donc la maman se dit
oui,
non, c'est
bisous,
pas vrai.
Les bisous, les bobos, la chanson.
C'est ça. Oh non, croûte de boucle, la chanson, c'est vrai. Oh. Et donc là, elle chante la chanson et les loups s'endorment. Donc pour le rituel du soir, c'est génial. Et en fait, comme tu disais, il y a deux pages. Une page où nous, on raconte et une page où il y a les loups. Et en fait, souvent, sur la page de droite, c'est l'enfant qui prend le relais. Quand les loups réclament le bisou ou l'histoire, vous allez avoir l'enfant qui va réclamer à force de connaître le livre. Et donc, ça peut devenir une lecture à deux voix et une interaction qui est vraiment super chouette.
Déjà, la maman en image, en dessin, elle est sympa. Elle est sympa.
Elle est sympa. Ouais. Et on sent que, comme nous, elle est un peu agacée parce que ça fait 15 fois qu'il l'appelle ou qu'il lui réclame des trucs. Donc, vous allez en plus vous identifier en tant que parent qu'on a appelé déjà 15 fois depuis que l'enfant est couché.
Je peux voir le dernier dessin ?
Oui, bien sûr.
Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que là, on vous a raconté à peu près l'histoire. Mais en gros... Ah, d'accord. Et donc, la maman s'éloigne un petit peu des enfants à pas feutrer, à pas de loup, évidemment.
Sauf que
crac. Oh non ! Donc, du coup...
Eh ben, on sait pas.
Elle marche sur une branche et... On vous laisse imaginer la suite.
Et oui.
Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a les images également qui illustrent ça, qui sont super bien faites.
Exactement.
Qui sont dans la simplicité.
Ouais.
Et qui font un effet fou. Donc non, je comprends. D'accord.
Ouais, le coup de crayon est incroyable et l'expression des loups...
Il va falloir que tu viennes me la raconter maintenant.
Non, j'ai déjà mon enfant.
À l'école des loisirs, dans la forêt sombre et profonde de qui ?
C'est de Delphine... Bournet.
Et bien, de toute façon, vous demandez conseil à vos libraires indépendants du Lot, ils sont nombreux de 7, et vous leur demandez ce livre-là, ils sont, vous l'idée, ici à quel grain vous en avez. Petit thermomètre que je fais en ce moment, au point de vue des ventes, le dernier Houellebecq, il se vend toujours aussi bien ?
Non, ça s'est calmé.
Ça s'est calmé ?
Oui. Assez d'accord. Nettement d'ailleurs.
Ils sont tous morts d'ailleurs, ceux qui l'ont lu et tel d'ennui ou non
parce que... Non, il a une bonne critique.
De dépression.
Il a eu des bonnes critiques, Cyril l'a terminé et apprécié. Mais je ne sais pas, pour l'instant, non, c'est très calme en fait.
Oui, parce donc, qu'il n'a pas donné d'interview. Peut-être pour
ah,
ça.
Ah oui.
Hey, ça peut peut-être jouer.
Il n'en a pas donné au début, mais il en a donné
qu'il n'accorderait aucune interview. Je crois qu'il en a accordé. Qu'une seule, mais c'était même à la presse écrite, et par, ou un journaliste en tout cas, mais par réponse, tu vois, écrite.
Après, Houellebecq n'a pas besoin de ça, je pense, pour se vendre, mais les ventes se maintiennent, mais c'est pas comme à la date de parution, mais parce qu'il y a aussi eu plein d'autres ouvrages très, très chouettes qui sont parus depuis et qui ont aussi une promo assez importante. Donc ça se poursuit, mais c'est pas le... C'est en ce moment, c'est plutôt voilà, Nicolas Mathieu, Pierre Lemaître.
Ah, Lemaître, ça y est, ouais. Que nous a présenté Cyril la semaine dernière.
Voilà, c'est ça, donc qui est vraiment très bon aussi. Et puis le deuxième volume de la trilogie de Leïla Slimani, qui avait écrit Le Pays des Autres, et qui là vient de paraître aujourd'hui le tome 2.
D'accord.
De cette trilogie.
Et là, ça marche bien pour elle.
Et bon, c'est arrivé aujourd'hui, donc pour l'instant, c'est trop tôt pour me prononcer.
Oh, mais je sens
mais
que
je,
Nathalie...
Je n'ai pas beaucoup de doutes.
Nathalie va nous en parler, parce
exactement.
Que je sais qu'elle est fan de...
Oui, Nathalie va vous en parler.
Merci Sandrine, à bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Alors c'est le week-end et si vous ne savez pas quoi faire effectivement, puisque pour l'instant les boîtes ne sont pas encore ouvertes, il faudra attendre le 16 février, vivement, on en devient tous impatients. N'oubliez pas l'Open Club demain de 19h à 22h sur CFM Cahors avec nos DJ Frédéric Maton, Franck Cassis et juste en tout premier Arnaud Tirard pour pouvoir faire votre discothèque chez vous. Et puis sachez qu'il y a les podcasts de l'émission également sur cfmradio.fr pour réécouter en plus, une fois que l'Open Club est fini, vous pouvez en rajouter d'autres puisque chaque podcast dure 3 heures quand même. C'est la fin de ce magazine, je vous souhaite à tous un bon week-end. Il est à réécouter tout à l'heure à 17h en rediff ainsi qu'à 21h30 dans un instant le journal.